j'ai grandi sur le Poole Varney, où j'ai passé toute ma jeunesse. Aujourd'hui, un quartier dont les médias appellent ce quartier Crackland, Zombieland. Vous savez, frères et sœurs, nous avons un esprit de vie, nous ne pouvons pas vivre comme des morts vivants. Avec Christ en nous, nous vivons dans une vie réelle, parce que Dieu nous a donné cette vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vivifiant, le Saint-Esprit a quelque chose de créatif en nous. Et je prie cet après-midi que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob vienne vous moindre, que le Dieu trois fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit, accompagne, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse les enfants que vous avez, les enfants de vos enfants et les enfants de leurs enfants qu'ils auront. Alléluia. Bénédiction pour vous, bénédiction sur vos vies, frères et sœurs. Et je brise aujourd'hui tout ce qui a pu être entaché dans votre vie, toutes les paroles de malédiction, je brise maintenant et je dénonce et je mets comme un joug, comme un bouclier sur toutes ces paroles qui ont été des paroles maudites. Maintenant, je les brise afin que tu puisses totalement être libre pour adorer, louer et vivre pleinement ce que Dieu a pour toi. Et c'est un plan d'amour, c'est un plan d'avenir et d'espérance pour chacun d'entre vous. Alléluia.
Amen.
Amen. Alors, frères et sœurs, vraiment, c'est une joie, mais vraiment une joie. Quand j'ai commencé à prier pour ce temps que nous allons vivre, et quand on m'a demandé le thème abordé, je parle de l'espérance, parce que aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps même que je suis un troubadour d'espérance, c'est le titre de mon dernier ouvrage. Vous savez, frères et sœurs, dans ce quartier où j'ai grandi, à Porte-d'Aubervilliers, une petite école de secteur. Et dans cette école de secteur, je me souviens encore les seuls mots que j'entendais dans cette école et qu'ils étaient adressés à moi, à ma personne. C'était juste que j'aurais uniquement un diplôme de chômeur. Frères et sœurs, ce sont des paroles de malédiction, tout simplement parce que j'avais une dyslexie. Et à l'époque, la dyslexie, on ne savait même pas ce que c'était. Alors j'étais catégorisé, ou dans une catégorie, je ne sais pas comment très bien on dit, de cancre, vous voyez. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu est tombée sur moi. Aujourd'hui, ce sont les éditeurs qui commencent. Je le dis, je fais un peu de pub et puis après, on passe directement aux choses du royaume. Le premier livre que j'ai écrit, Arraché à l'enfer, frères et sœurs, il a été édité, réédité, vendu à 31 000 exemplaires pour un pack moins 5. C'est pas trop mal. Alléluia. C'est bien, vous savez, frères et sœurs. Vous savez, j'ai bien aimé quand nous avons vraiment pris ce temps de bénédiction et nous sommes des instruments de bénédiction. Je crois que Dieu nous a créés pour la bénédiction, frères et sœurs. Et il faut rentrer dans cette bénédiction sur nos vies. Il faut rentrer dans la bénédiction sur la vie de nos familles. Prophétisez sur vous, frères et sœurs. Prophétisez la santé. Prophétisez les bienfaits pour vous. Ce n'est pas égoïste, frères et sœurs, de prophétiser sur les bienfaits que Dieu a déjà en promesse sur nous. Alors, quand j'ai préparé ce temps que nous allons vivre, je ne connaissais pas la liturgie du jour. Puisque je vais vous parler de l'espérance qui ne trompe pas, l'espérance qui ne déçoit pas, l'espérance qui, nous détourne pas, bien au contraire. Elle nous tourne vers le Christ, elle nous tourne vers les choses célestes. Et je ne sais pas si vous avez eu la curiosité ou la possibilité aujourd'hui de lire la liturgie. Vous savez, je crois que c'est un cadeau de pouvoir suivre la liturgie chaque jour, parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Son esprit est le même. Il est l'agneau de Dieu, frères et sœurs, qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte la maladie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte tous nos attachements mauvais. Il est l'agneau de Dieu qui nous libère totalement. Alléluia.
Amen.
Et dans la liturgie, justement, d'être lu, je ne vais pas la lire tout entière parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais il nous parle d'Abraham et de cette espérance contre toute espérance. Il a cru, est-il devenu le père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps où justement Dieu, comment dire, t'a choisi, non pas parce que tu étais qualifié pour qu'il te choisisse, c'est lui qui te rend capable. C'est lui qui te rend capable, mon frère, ma sœur. N'attends pas d'être parfait pour commencer à proclamer la gloire de Dieu. N'attends pas d'être en parfaite santé pour proclamer la gloire de Dieu. C'est lui, par son Esprit Saint, qui te rendra parfait malgré tes imperfections. Alléluia. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais qu'il le fait. Il le fait pour chacun de nous. Il le fait. Il l'a fait pour moi, comme il va le faire pour vous et qu'il l'a déjà fait dans la lecture de l'Évangile. Parce que le thème, hein, c'était vraiment Romains 5:5, hein, je rappelle, sur l'espérance, hein, qui nous a été donnée, hein, par un mot qui a été déversé dans nos cœurs, par l'amour de Dieu, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et la liturgie est cohérente avec ce qu'on vit. Je vous dis juste le passage, hein, qui nous a été dit. Quand on vous traduira devant les gens, les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra vous dire. Amen. Alors je ne suis pas devant un juge, je ne suis pas devant un tribunal, mais je sais que le temps aujourd'hui est l'heure où le Saint-Esprit nous enseigne, frères et sœurs. Je sais qu'aujourd'hui nous rentrons dans une nouvelle saison. Je sais que cette saison va être une saison de fruits en abondance, où la paix va venir dans nos cœurs, où la joie va venir dans nos cœurs. Vraiment être acteurs, chacun d'entre nous, de cette nouvelle saison, que nous puissions avoir un désir, et nous en sommes capables, car Dieu nous rend capables. Dieu a mis dans ton cœur la capacité d'aimer, mon frère, ma sœur. Tu es rendu capable d'aimer, tu es rendu capable d'être aimé, tu es rendu capable de faire aimer l'amour que Dieu a déposé dans ton cœur. Alléluia. Chacun d'entre nous, nous sommes rendus capables, frères et sœurs. Il s'agit juste d'une question de désir, une question de vouloir, une question de conviction. Et je souhaite que le Saint-Esprit, ce soir, cet après-midi, vienne vous confondre, frères et sœurs, qu'il y ait une confrontation en vous, que vous désiriez, vous le faites déjà, mais que vous désiriez, au-delà de tout, pouvoir chercher à donner le bien que Dieu a déposé dans votre cœur. Amen. Alléluia. Alors, je n'ai jamais fait de philosophie et je pense que c'est important pour pouvoir avoir un éclairage, hein, en tous les cas, avoir une pensée, non pas une pensée unique, mais avoir une réflexion. Et cette philosophie, si elle est éclairée à la lumière de Dieu, elle pourra nous permettre justement de comprendre qu'il y a quelque chose, un concept, on va appeler ça comme ça, du désir du bien, même si on ne le fait pas. On désire au fond de notre cœur faire le bien. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a un processus du bien qui se met en route, et ce processus va nous permettre justement d'être des instruments de paix, des instruments d'amour. Soyons ces bâtisseurs de cette civilisation de l'amour. Alléluia. Amen. Alors, ça fait quelques années que j'essaye de bâtir cet amour, et Dieu m'a permis justement, en me relevant de situations très compliquées, il a fait de moi, hein, ce troubadour d'espérance. Alors j'ai travaillé, hein, pour nous, pour vous, hein, parce qu'il est bon d'être enseigné. L'espérance, nous dit la parole, soutient le malheureux. Le Seigneur réconforte ceux qui ont perdu l'espérance. Le thème du jour est l'espérance, frères et sœurs. L'espérance pour cela est notre soutien, notre force car nous ne sommes pas dans l'erreur quand nous espérons. Au contraire, il y a une force, une persévérance, la victoire dans l'épreuve. Frères et sœurs, je pourrais donner le micro à chacun d'entre vous. Et chacun d'entre nous, nous avons vécu des épreuves. Hein? Nul ne peut se connaître vraiment sans avoir souffert dans sa vie. Alors bien sûr, nous n'allons pas chercher à souffrir pour se connaître. Mais la souffrance habite notre cœur. Dans le plan de Dieu, dans la création de Dieu, Dieu n'a pas voulu la souffrance. Dieu n'a pas voulu qu'on souffre. Malheureusement, le péché est venu habiter le cœur de l'homme. Je vais vous dire une chose. Dieu ne se trompe jamais. L'espérance ne se trompe pas. Quand nous avons traversé l'épreuve et que nous avons surmonté les vallées de l'âme et de la mort et que nous avons compris que ce Seigneur en nous est notre Sauveur, quand nous le proclamons de notre bouche, quand nous le déclarons au plus profond de notre cœur, alors oui, nous serons sauvés. Et parce que nous sommes sauvés déjà, parce que nous avons fait une expérience de Dieu au travers d'une épreuve, au travers d'une difficulté, la recréation, frères et sœurs, est encore plus belle que la création. Alléluia. Que nos difficultés, que nos épreuves, que nos souffrances soient une valeur rajoutée à ce que nous sommes. Alléluia. N'ayez jamais honte, frères et sœurs, de ces blessures. N'ayez jamais honte de ces cicatrices. N'ayez jamais honte de votre passé. Parce que l'Esprit de Dieu est venu comme apaiser. Il est venu comme mettre en lumière. Il est venu comme vous fortifier. Amen. Alors cette persévérance dans la victoire, dans l'épreuve, hein, cette victoire, l'espérance, or l'espérance, comme je vous disais tout à l'heure, ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Esprit ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. N'ayons jamais honte, frères et sœurs, jamais honte d'appartenir à la famille royale. N'ayons jamais honte de ce Seigneur qui est mort pour chacun d'entre nous et que Dieu a relevé d'entre les morts pour nous sauver. Alléluia. La parole de Dieu est très claire ce matin, toujours dans le même évangile. Alors, je ne vais pas revenir dessus, mais frères et sœurs, il est bon aussi de savoir, hein, on ne va pas prendre que les bonnes paroles dans l'évangile. En ce temps, Jésus disait, je vous le dis, quiconque sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Frères et sœurs, que nous ayons aucune intimidation du diable. Amen. Si tu marches avec Dieu, qui sera contre toi? Aujourd'hui, le diable voudrait nous intimider, frères et sœurs. Mais il n'y a aucune intimidation, parce que nous savons avec qui nous marchons. Amen. L'arme massive du diable, c'est de nous rendre anesthésiques, d'oublier, frères et sœurs, que nous avons cette sainte espérance en nous. Oubliez que nous sommes des enfants de Dieu et que notre Père nous chérit. Alors le diable va tout faire pour t'anesthésier. Non, nous ne serons pas anesthésiés. Amen. Nous avons Christ avec nous. L'espérance des nations, l'espérance de gloire pour nous. Alors j'avance, frères et sœurs. Encore une fois, l'espérance ne confond point, elle ne déçoit pas. L'optimiste déçoit. L'espoir déçoit, et je reviendrai là-dessus. Mais l'espérance, nous en avons tant besoin en ces temps qui paraissent obscurs, insécures, dans lesquels nous sommes parfois égarés devant le mal et la violence qui nous entoure, devant la douleur de tant de nos frères. Il nous faut cette espérance, frères et sœurs. Réclamez-la, c'est une vertu théologale. Et je dirais peut-être que même, ça, c'est peut-être la vertu la plus grande. Charles Péguy, un grand poète qui disait, hein, il l'espérance, la petite sœur, l'espérance des trois vertus, hein. Et bien c'est elle qui tient la main de la foi, c'est elle qui tient la main de la charité. Dans son poème, Charles Péguy disait, la foi, je peux comprendre. Il parlait de Dieu qui nous parlait. La charité, je peux comprendre. Mais l'espérance, c'est une des plus grandes vertus, frères et sœurs. Et il nous faut une détermination pour rentrer dans les chemins, pour rentrer dans les voies que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. Encore une fois, tu as une grande destinée, mon frère, ma sœur. Il y a une grande destinée pour tes enfants. Il y a une grande destinée pour les enfants de tes enfants. Mais il faut se déclarer vraiment, déjà, possédant le royaume. Peut-être que le monde va mal, mais le royaume, lui, il va bien. Alléluia. Et tu es enfant du royaume, mais le royaume, il est déjà là pour toi. Voilà notre espérance, frères et sœurs. Alors, cette dimension spirituelle donnée par le Saint-Esprit, encore une fois, elle ne déçoit pas, elle ne trompe pas, elle ne confond pas, car elle nous conduit dans une paix profonde. Et je crois que le fondement de l'espérance, c'est la paix justement. Et Dieu en est le fondement. Non pas n'importe quel Dieu, frères et sœurs, le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au bout, chacun individuellement, et il a aimé l'humanité tout entière. Son règne n'est pas au-delà, n'est pas un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalisera jamais. Son règne, il est présent là où il est aimé. Et son amour, là où est son amour, il nous atteint. Frères et sœurs, quand nous louons l'Éternel, que nous nous mettons à genoux devant le Seigneur, son amour est là. Et il nous montre son visage. Il nous révèle son amour. Et quand son amour t'a révélé, quand Dieu t'a révélé son amour, alors tu sais, tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus rester comme ça. Il y a quelque chose dedans de toi qui te permet justement d'annoncer à temps et à contre-temps. Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer avec sobriété chaque jour, sans perdre l'élan de l'espérance, dans un monde qui, par nature, est imparfait. Frères et sœurs. Alléluia. Ce que je cherchais depuis toujours à l'extérieur, chers frères et sœurs, je l'ai découvert à l'intérieur. Il s'appelle Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, c'est lui qui nous renforce. En lui, je peux tout. En lui, je peux tout, frères et sœurs. Que ça soit gravé dans ton cœur. Amen. L'espérance est entrée dans ma vie comme un projecteur, éclairant tout mon être le plus profond. Et tout a été transformé, tout a été changé. Je voudrais, frères et sœurs, que tout le monde puisse découvrir la même chose, avec une compréhension renouvelée, surtout une conviction que rien n'est jamais figé. L'espérance est ton nouveau logiciel. Vous savez ce que ça veut dire, logiciel? La maison du ciel, le logiciel. Et je voudrais que cet après-midi, le Saint-Esprit vienne reparamétrer ce logiciel, qu'il puisse avoir une connexion parfaite entre toi et Dieu. Amen. Dieu m'en est témoin, je partais très bas, véritablement mort de l'intérieur, une espèce de loque à l'extérieur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon quartier. Je suis passé peut-être un millier de fois devant l'église Sainte-Jeanne d'Arc. J'allais me fournir de l'héroïne dans les quartiers chauds, à la chapelle, dans les quartiers chauds, ici, hein, jusqu'à Barbès. J'allais me fournir Et chaque fois que je passais devant cette église, je ne connaissais pas Dieu. Je touchais la chaussure de Jeanne d'Arc, vous voyez la statue? Et je demandais, comme un vœu, vous voyez, que j'arrête la drogue. Même le non-croyant, frères et sœurs, il prie. Mais il ne prie pas Dieu parce qu'il ne le connaît pas. Mais le non-croyant, par nature, comme chacun d'entre nous, est spirituel. Le non-croyant aussi a quelque chose de Dieu dans son cœur. Mais s'il ne connaît pas Dieu, comment voulez-vous qu'il s'adresse à celui qui a créé le ciel et la terre? Comment voulez-vous qu'il s'adresse à celui qui a fait un transfert entre le ciel et la terre? Alors il fait un vœu, et chaque jour que je passais, je serrais la chaussure de Jeanne d'Arc, et je faisais un vœu d'arrêter la drogue. Et vous savez quoi? Je pense que Jeanne d'Arc a exaucé ses vœux. Alléluia! Alléluia! Même si vous avez entendu, mais il a besoin, bien sûr, pour être bénéficiaire de la grâce, il a besoin de ceux qui ont été déjà au bénéfice de la grâce. Amen. Donc chacun d'entre vous, vous avez été certainement au bénéfice de la grâce. Donc vous serez bénéficiaire pour vos frères et sœurs. L'héroïne m'a tout volé, frères et sœurs. Dans ce quartier, j'ai perdu une cinquantaine de potes sur 20 ans de rue. Tous morts. L'espérance dans ce quartier, entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers, était à peine de 25 ans. L'héroïne m'a volé la relation que je pouvais avoir avec ma famille. Parce que quand on fait rentrer la drogue chez nous, c'est le shétan qu'on fait rentrer. Quand on fait rentrer l'alcool chez nous, c'est le diable qu'on fait rentrer chez nous. Le diable est rentré chez moi et il a volé, parce que le diable est un voleur. Le diable est un accusateur. Le diable est un trompeur. Le diable est un meurtrier. Il a volé la relation que je pouvais avoir avec ma famille. Pourtant, au départ, elle n'était pas très bonne, mais elle s'est tempérée de jour en jour à cause de la drogue. Je m'habituais aux larmes de ma mère qui avait peur chaque jour que son fils fasse une overdose, que son fils se fasse arrêter par la police, que son fils se retrouve dans un état, dans un règlement de compte. Je m'adresse aux mamans ce soir qui ont peur pour leurs enfants. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de crainte, frères et sœurs. La crainte de Dieu, oui, est un don, mais l'Esprit de Dieu va te permettre justement d'avoir une assurance pour ta famille, pour tes enfants. Amen.
Amen.
Mais je sais qu'il y en a certains qui pleurent. Mon père, je l'ai vu pleurer au parloir quand j'ai été en prison à Fresnes. Je l'avais jamais vu pleurer. D'ailleurs, je l'avais jamais vu me regarder. J'ai cru qu'il ne m'aimait pas. Frères et sœurs, nous pouvons nous construire dans le malheur. Nous pouvons nous construire dans le mensonge. Cette drogue, elle a volé ma première femme. J'étais incapable d'aimer parce que je ne savais pas aimer. Elle est morte à 25 ans, après 4 ans de souffrance. Une maladie que vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle le sida. Cette drogue m'a volé notre premier enfant. Alors qu'on avait réussi à surmonter le plus dur, on avait arrêté tous les deux, ici, dans ce quartier. Alors qu'elle était tombée enceinte à son 4e mois de grossesse, à l'hôpital, on lui a annoncé qu'elle ne pouvait pas garder cet enfant. Frères et sœurs, cette drogue m'a conduit moi aussi à avoir une maladie grave comme le sida. C'est à Fresnes qu'on m'a annoncé que j'étais porteur de cette maladie, accusé d'un chef d'inculpation très grave qui s'appelle un homicide volontaire. Frères et sœurs, quand je me suis retrouvé en prison et qu'on m'a annoncé que j'avais le sida, il y a plus de 30 ans de ça, j'ai pris une larme. J'ai attendu que les détenus s'endorment. Et au moment de m'ouvrir les veines, vous savez, j'avais pas peur de mourir. J'avais peur de ce qu'est-ce qui pouvait se passer derrière. Pourtant, je n'étais pas croyante, j'avais été baptisée, mais jamais j'ai entendu une prière. Mais au fond de mon cœur, j'avais tellement peur d'aller en enfer. C'est le grand paradoxe de mon histoire. Alors, vous savez, j'ai crié vers Dieu juste pour lui demander s'il pouvait me faire une petite place dans son paradis. Et Dieu a entendu mon cri, parce que Dieu entend nos cris. Dieu nous connaît par cœur. Et vous savez, c'est un Dieu qui nous rend libre. Il ne va pas s'imposer à toi, bien sûr que non. Mais le jour où tu lui ouvres la porte de ton cœur, d'ailleurs il est clair dans l'évangile, il est dit qu'il y a plus de joie au ciel, frères et sœurs, pour un pécheur qui revient à la maison de Dieu, que pour 99 justes qui n'a pas besoin de revenir bien tranquille dans ses baskets. Oui, Dieu est venu chercher les pécheurs, Dieu est venu chercher les malades, Dieu est venu chercher tous les démontés, frères et sœurs. Il m'a fait une grâce particulière, il s'est révélé à moi. Et le jour où Dieu se révèle à toi, ta vie change automatiquement. Amen.
Amen.
J'ai vu au fond de mon cœur, non pas quelque chose comme je vous vois, mais ce qui nous rend capables de Dieu, frères et sœurs, nous permet de voir des choses de Dieu. C'est dans l'intime de l'intime, c'est là, dans la présence de la présence, c'est dans l'âme de l'âme. C'est là ce que Paul appelle le temple du Saint-Esprit. C'est là que Dieu vient se manifester. Et c'est là que Dieu m'a montré son visage. La justice a reconnu une légitime défense, frères et sœurs. Je suis sorti de prison. J'avais rencontré mon Seigneur, mon Sauveur. Et pourtant, j'en ai fait comme de la magie, tout simplement parce que je n'allais pas au sacrement, tout simplement parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu, tout simplement parce que je n'ai pas vu de chrétien autour de moi. Alors quand je suis revenu dans ce quartier, automatiquement j'ai replongé, et ça a été encore pire parce que Dieu avait éclairé une conscience. Alors j'étais en confrontation de puissance entre le mal et le bien, et j'étais perdu. Alors je rentrais dans les églises, et Dieu sait s'il y en avait belles. Et je m'adressais à celui qu'on a suspendu sur la croix. Lui, il m'avait sauvé en prison. Lui, s'était manifesté. Et alors je le regardais et je lui demandais, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu m'as abandonné ? Pourquoi tu me laisses comme ça ? Dieu ne nous abandonnera jamais, frères et sœurs. Simplement, j'ai vu aucun chrétien me regarder. Aujourd'hui, j'ai donné mon cœur pour le Seigneur. J'ai donné mon cœur pour cette jeunesse de France. J'ai donné mon cœur pour l'évangélisation. Parce que peut-être que j'aurais pas perdu de temps, frères et sœurs. Malheureusement, après cet épisode, j'ai pété un câble, comme on dit vulgairement, et je me suis retrouvé enfermé à Villefranche, dans un asile, dans un hôpital psychiatrique, dans un milieu, un pavillon fermé. Excusez-moi pour les détails, je n'ai plus honte aujourd'hui. Le jour où mes blessures ont rencontré les meurtrissures du Christ, j'ai découvert au fond de mon cœur que la puissance du Saint-Esprit pouvait me relever. Amen. On m'a attaché, j'avais 29 ans, on m'a attaché les mains, on m'a attaché les pieds, on n'est pas fait pour vivre comme des esclaves. Christ nous a affranchis de toute forme d'esclavage, amen ou pas? Il nous a sauvés de toute forme d'esclavage. Alors ils m'ont mis ce qu'on appelle la camisole chimique, frères et sœurs. J'étais incapable d'aller me laver tout seul, c'est des soignants qui me lavaient. Alors c'est terrible. Au niveau de l'humiliation. Et puis la maladie du sida s'est déclarée. J'ai eu le foie qui a fibrosé. Je suis en train de vous parler d'un Seigneur qui relève jusqu'au plus bas. On m'a hospitalisé à l'hôpital Bichat, dans un service de sidéens. Dans ce service, les médecins m'ont dit que j'avais très peu de temps à vivre. Très peu de temps à vivre. Vous savez, la seule chose que je demandais à Dieu, la seule, me réconcilier avec ma famille si je devais mourir. Et je suis pas mort. Un homme visitait les malades. Cet homme-là m'a regardé, je crois que pour la première fois de ma vie, vous ne m'avez jamais regardé comme ça, avec un regard d'aide, avec un regard qui relève, avec un regard qui restaure. Il m'a dit pour la première fois de ma vie que j'ai entendu que j'étais quelqu'un de bien. Cet homme-là était chrétien, frères et sœurs. Cet homme-là était porteur d'espérance pour moi. J'ai eu confiance en lui. Cette espérance, elle a habité mon cœur à partir du moment où il m'a permis de me déplacer dans un endroit qui accueillait des malades fin de vie. J'ai été accueilli dans une communauté religieuse, la communauté des béatitudes. À Corps-sur-Ciel, ça ne s'avance pas. Ils accueillaient des cancers phase terminale, des sida phase terminale. J'avais pas 30 ans quand je suis arrivé là-bas. J'avais beaucoup de mal à me tenir debout. On me mettait dans un fauteuil roulant. Frères et sœurs, l'amour de mes frères et sœurs m'a relevé. J'ai jamais rencontré autant de bonté au mètre carré. J'ai jamais rencontré autant d'amour qui transpirait dans ce lieu. J'y suis resté 9 ans. Pendant 3 ans. Les médecins ne comprenaient pas. Pourquoi ? Je ne mourrai pas. Mais on a trouvé des traitements. Vous savez, je n'oppose pas la science et Dieu. Bien au contraire, Dieu a donné aux hommes le don de l'intelligence, le don de la science. Alors j'ai pris ces traitements. Encore aujourd'hui, je suis sous traitement dit trithérapie. Et ce n'est pas manquer de foi, frères et sœurs. Bien au contraire, le miracle aujourd'hui, c'est ce que je fais. Le don total de ma vie. Bien sûr, je pourrais rester tranquillement à la maison, mais non, j'ai découvert cet amour. Cet amour me brûle et je donnais ma vie pour ces jeunes. Aujourd'hui, j'ai jamais été autant à l'école que ces dernières années. Ça fait 15 ans que j'ai un ministère dans les écoles pour donner ce message de foi, d'espérance. Dieu m'a permis d'aimer parce qu'il nous permet d'aimer. Il m'a permis de rencontrer une femme extraordinaire. Alors on a cheminé sous le regard de Dieu, alors que j'étais à moitié moi. J'étais un peu le miracle humain dans cette communauté. On s'est fait accompagner pour notre mariage. Frères et sœurs, nous nous sommes mariés le 23 octobre 1999. Alléluia! Quelques jours, nous fêterons nos 22 ans de mariage. Ça, c'est de la bénédiction, frères et sœurs. Alléluia. Oui, nous avons un Dieu grand. Nous avons quitté la communauté où un an de ma fille, tous les médecins me disaient que j'aurais jamais d'enfant. Humainement impossible. Quand vous entendez humainement impossible, écoutez, essayez de raisonner l'espérance qu'il y a au-dedans de vous. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ma fille va bientôt avoir 21 ans, écoutez bien, ça fait 4 ans maintenant, qu'elle fait du 3 à la fac de Toulouse. Cette année, elle a choisi un master dans la criminologie. Elle m'a dit un jour, papa, à cause de ton histoire, je serai juge. Alléluia. Dieu nous a comblé d'un deuxième enfant, un garçon, il est encore à la maison. C'est un artiste, il est en première. Frères et sœurs, si je vous partage ça, c'est pour augmenter en chacun d'entre nous, cette espérance. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'en suis son témoin. Bien sûr, je ne l'ai pas mérité. Sauf qu'un jour, je lui ai donné mon cœur. Sauf qu'un jour, je lui ai donné mon oui. Peut-être que ce soir, tu en voudras avancer un peu plus avec ton Seigneur. Et peut-être que tu lui donneras davantage ton oui. C'est ce que je souhaite, c'est ma prière. Ah, bien sûr, nous allons prier ce Dieu de l'impossible qui vienne régler les choses qui te paraissent impossibles. Mais j'aimerais avant que nous puissions avancer encore dans l'enseignement, ça va ? Si je me suis un peu égaré là. ma vocation aujourd'hui, c'est de semer des graines d'espérance dans les cœurs, comme un bon cultivateur. Et je ne me fatiguerai pas parce que Dieu est ma force. Dieu est notre force, frères et sœurs. Amen. Et le bon discernement, si tu sers le Seigneur, c'est que tu sois fatigué. Ah, ça calme. Alors t'inquiète pas, il redonne la force à son bien-aimé qui dort. Amen. Tu trouveras le repos, t'inquiète pas. Mais Dieu a besoin de serviteurs. Dieu a besoin de chacun d'entre nous, là où nous en sommes dans notre vie, pour les personnes que tu as mises dans ton chemin. Mon bonheur, frères et sœurs, c'est mon espérance en Dieu. L'espérance, c'est elle qui fait tout le bonheur de l'homme. Il est écrit dans la parole, « Heureux est l'homme qui met son espérance en Dieu. » Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Frères et sœurs, l'espérance change tout à notre vie. Et pourtant, sans rien changer concrètement, c'est une façon de voir les choses un peu différente. Je vais vous donner un petit exemple. Et ceux des îles, ceux du soleil, ceux de la chaleur, vous allez comprendre. Nous arrivons dans l'hiver, frères et sœurs. Nous arrivons où le temps va être un petit peu plus froid, un peu plus humide. Moi, j'aime pas ce temps-là. Pourtant, je suis né le 12 novembre, vous voyez, ça pourrait être un temps de bénédiction. D'ailleurs, j'aime bien le chocolat, le 12 novembre, vous vous rappellerez. Je plaisante, bien sûr. Mais, tout simplement, je déteste cette saison. Pourtant, vers mi-décembre, frères et sœurs, à l'approche de Noël, il y a une espérance nouvelle en moi. La tristesse s'efface comme par enchantement. C'est sûrement l'esprit de fête qui s'éveille en moi. De ce fait, je ne perçois plus le froid humide. De la même manière, même si le jour tombe très tôt, ça ne me dérange plus, car mon regard est tourné vers quelque chose de plus grand, vers l'émerveillement de la lumière de Noël. L'espérance est cet émerveillement miraculeux. Lorsqu'elle prend naissance dans les cœurs, tout est différent. Même si rien ne change, c'est une attitude à avoir, frères et sœurs. C'est un regard nouveau à avoir. On aurait tellement de choses à dire, à se plaindre. Mais si nous voyons notre vie avec cette espérance que Dieu a mis dans nos cœurs, alors je pense que nous passerons plus notre temps à critiquer, mais nous passerons notre temps à bénir. Amen.
Amen.
Vous me rappelez un peu le temps aussi, ça. Je vais encore boire, désolé. Je vais même enlever ma veste, si vous me permettez. J'irai pas plus loin. Alors, frères et sœurs, je vous ai dit, et je pense que c'est un enseignement qui peut nous aider, la différence entre l'espoir et l'espérance. Deux manières différentes d'attendre. L'espoir est de croire en un mieux dans le futur. Tout être humain aspire à avoir un futur meilleur. L'espérance est l'assurance d'un avenir différent, frères et sœurs, qui se réalise déjà au présent. C'est une voie directement tracée dans le mystère que nous pouvons percer, qui permettra de traverser les inattendus, les imprévus de la vie. L'espérance est porte-parole de notre destinée. C'est elle qui donne un sens plus élevé à notre existence, nous garantit un rang supérieur dans la loi de compréhension sur le chemin spirituel de la lumière éternelle. L'espoir, frères et sœurs, c'est d'attendre un événement futur dont la réalisation est incertaine, mais que l'on espère. L'espoir, c'est aussi quand on n'accepte pas le présent et que l'on se projette dans le futur, que l'on désire meilleur, quelque chose de mieux, quoi, pour soi ou pour les autres, une perspective de bonheur. L'espoir peut être considéré comme une émotion, comme une passion. Dans ce sens, l'espoir est positif, frères et sœurs, car il permet de se battre pour obtenir un but fixé. Mais je suis désolé d'insister, car on confond souvent l'espoir et l'espérance. Même si ce sont deux termes identiques qui se définissent comme une disposition de l'homme à attendre un futur bon, l'espérance est une attitude de confiance gratuite en l'avenir. L'espérance, elle ne s'éteint jamais, frères et sœurs. Elle perdure au-delà des moments difficiles, car elle s'inscrit dans le temps et l'éternité. L'espoir ne dure pas. Il relève souvent de l'illusion, alors que l'espérance révèle de l'intuition. Elle traduit une confiance profondément enracinée, un principe fondamental qui nous élève dans une dimension transcendantale. Cette différence dans le monde spirituel et particulièrement chrétien vient du fait que l'espoir meurt un jour, tandis que l'espérance demeure toujours. Je me souviens de ce petit témoignage, une femme très malade sur son lit de mort disait à son ami, à son chevet, avec une grande paix et un regard rayonnant, « J'ai perdu l'espoir, mais j'ai trouvé l'espérance. » C'était sa dernière phrase avant de rejoindre la maison du Père. Frères et sœurs, si j'essaie de différencier l'espoir et l'espérance, c'est que tout simplement notre espérance est une rencontre ultime avec quelqu'un. L'espérance est cette rencontre avec le Christ et nous ouvre les portes de l'éternité. Souvent, l'espoir est un superflu qui peut laisser parfois le sentiment d'être déçu. Même s'il atteint le but attendu, l'espérance est tout à fait autre chose, frères et sœurs, car elle vient de Dieu. Cette dimension des cieux a quelque chose de précieux. C'est ce qui donne un aspect merveilleux à notre vie. Elle donne la force nécessaire de surmonter les pires épreuves de la vie. Elle nous permet de demeurer dans la confiance et la foi. C'est une source de réconfort, frères et sœurs, de joie pour le croyant. Elle nous apporte de la sérénité et de la sagesse. Elle donne un sens à un désir chaque jour renouvelé de la présence de Dieu. Elle est indissociable de la paix intérieure. L'objet de notre espérance concerne à la fois le terme du voyage, le bonheur du royaume des cieux et la vie éternelle et le chemin pour y aller. Soyons remplis d'espérance. Soyons, comment dire, impactés par cette espérance. Je vous invite vraiment à lire votre Bible quand vous rentrez le soir, remplis de l'Esprit Saint qui est en vous, avec ce regard d'espérance. Et frères et sœurs, vous n'aurez plus peur de ce qu'on peut entendre. Non, parce que cette espérance te fait rentrer déjà dans des écrans de possibilités sur ta vie. Dans mon jargon, je dirais que l'espérance du salut en Christ est le passeport valide pour être citoyen des cieux et l'accès direct à l'organisation interplanétaire du territoire du Père éternel. Elle nous ouvre les portes du ciel, en fait. Amen. Et c'est pas en disant ça qu'il faut faire la tronche, hein. Parce que si tu crois en ce salut, déjà, dès maintenant, tu vas rentrer dans ton héritage, déjà. Il a un plan, encore une fois, je vous le dis, un plan d'avenir pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, un plan d'espérance sur ta vie. Alléluia. Alors, comment ne pas parler de Paul? Et mon frère, tu me dis, si je suis trop bon, vous m'aidez un peu. Qui pour moi est le docteur par excellence en théologie, sur le Saint-Esprit, maître de l'espérance par excellence, Paul de Tarse. Il est mon modèle, il est mon mentor. D'ailleurs, essayez d'avoir, identifiez-vous avec des personnages de la Bible. Bien sûr, avec le Christ. Mais aussi peut-être avec des personnages de la Bible. Et vous savez, des fois, en se comparant à certains personnages de la Bible, on peut se dire, bah oui, bah quand même. Hein. Si Dieu, il a choisi le roi David, qui a fait tuer... le mari de sa maîtresse, oh, vous imaginez? sauveur protégé. Paraît-il que Moïse n'arrivait pas à parler comme ça. Alors il lui a donné un rond. Essayez de trouver un rond dans votre vie. Peut-être que ça va vous aider, mais n'attendez pas une qualification supérieure. Dieu t'a déjà qualifié, alléluia. Parce qu'il a déposé en toi ce qui est meilleur. L'invitation de Paul aux premières communautés de porter l'espérance du salut comme un casque bien accroché sur la tête face aux épreuves de la vie. Essayez d'avoir ce casque du salut accroché sur votre tête pour être confronté à ces épreuves de notre vie. On en a tous des épreuves, mais la façon que tu vas regarder l'épreuve sera différente parce qu'il y aura quelque chose dedans de toi. Non pas que tu es meilleur, mais Christ en toi est avec toi. Il te rend meilleur et il te permet, comment dire, de te préparer. Il vient nous parer, il met une attitude dans notre cœur, frères et sœurs. Voilà ce que fait l'espérance en nous. C'est comme un GPS, guide pour la sainteté. Nous sommes sur le bon chemin, tout simplement parce que Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Si tu as Jésus en toi, tu ne dévies pas du bon chemin. Il t'aidera chaque jour. Bien sûr, je ne crois pas à une victoire facile, frères et sœurs, parce que l'évangile de l'espérance a coûté la vie au Fils de Dieu. Je ne crois pas. Pour entendre à un évangile sans espérance, empreint de défaite, non. Car son amour est plus fort que tout, plus fort que la mort, frères et sœurs, plus fort que la drogue. Voilà mon espérance. Nous sommes en Christ et plus que vainqueurs. Tout à l'heure, notre frère nous l'a rappelé, car il nous l'a promis. Rien. Jamais. Séparera de l'amour du Christ.
Amen.
C'est ça la grande victoire. Croire que Dieu est avec nous aujourd'hui et jusqu'à la fin. Et si Dieu est avec nous, la joie est la cause de notre espérance, ma sœur. Elle nous donne la plénitude dans les actes de foi, la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par vertu. L'Esprit Saint. L'espérance est ancrée sur cette présence de l'Esprit Saint donnée par le Père. Le fondement de l'espérance, c'est l'amour de Dieu qui ouvre à une promesse. C'est celle d'un avenir lié pour l'éternité à celui de Dieu. Frères et sœurs, ça fait bien longtemps que je ne crois plus aux promesses de Dieu. Ça fait bien longtemps que je crois à l'accomplissement des promesses.
Amen.
Alléluia. Seigneur, tu le fais. Tu as des grands projets pour vous. Non des projets de malheur, mais des projets de paix. Si Dieu a mis un projet dans ton cœur, alors crois-moi, il le réalisera pour toi. Que nous puissions vraiment désirer au plus profond de notre cœur, avoir des rêves, des songes, que Dieu vienne éclairer nos vies, frères et sœurs. Alors, il faudra que je revienne pour finir mon enseignement, mais c'est vrai que le temps nous presse et je voudrais vraiment qu'on puisse prendre un temps qui nous est encore imparti pour qu'on puisse vraiment croire aux accomplissements de la parole de Dieu. Nous allons prendre un temps de ministère, notre frère va nous expliquer tout ça. Attendez-vous à Dieu, frères et sœurs. Je voudrais, c'est ma prière, quand tu quittes l'église, passe d'abord un moment dans mon stand, mais ça c'est juste des détails. Quand tu quittes l'église, tu te dis au fond de ton cœur, waouh, et c'est vrai que nous avons un grand Dieu.
Amen.
Que tu prennes ton portable et que tu appelles tes proches et que tu dises, waouh, mais tu sais, nous avons un grand Dieu.